Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Vous êtes les bienvenus sur Radio Immo, Radio Territoria, ravi de vous accueillir ici dans le 8e arrondissement, le Grand Palais qui accueille depuis hier la 5e édition du salon CIPCA, le salon bas carbone qu'on a le plaisir de vous faire vivre sur ces 3 journées. Hier on a reçu de nombreux invités, c'est encore le cas toute cette journée, vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions disponibles en podcast. Je suis ravi de recevoir 2 nouveaux invités, Jacques-Alain Benisti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne et vice-président de la métropole du Grand Paris, bienvenue à vous. À vos côtés, il y a Xavier Lemoine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, conseiller métropolitain délégué à l'économie circulaire. Merci à tous les deux d'être présents sur notre plateau. Je suis ravi de saluer aussi Sylvain Lévy-Valency, éditorialiste pour Radio Immo. Comment ça va, Sylvain ?
Bah écoutez, ça va bien. Plus ce serait de la gourmandise. Et puis, je suis d'autant plus heureux que nous aimons les maires. Parce que nous aimons nos maires et je suis très heureux qu'on ait des maires aujourd'hui, des maires solides en face de nous et qui portent haut et fort les bras de la République. Et je trouve ça extrêmement rassurant.
Eh bien, le message est passé. Effectivement, on est ravis de vous recevoir, messieurs. Le secteur du bâtiment produit environ 42 millions de tonnes de déchets par an en France, soit autant que les ménages. 42 millions de tonnes. Pourquoi le réemploi reste-t-il encore marginal sur les chantiers ordinaires ? Je vous poserai tout à l'heure la question à tous les deux. Mais vous avez mis en place d'abord en 2022, il y a 4 de ça, une charte métropolitaine pour une construction circulaire. Est-ce qu'on peut en rappeler les objectifs très concrètement ? Et je crois savoir d'ailleurs que 8 nouveaux signataires vous ont rejoint.
Vous venez d'employer et de donner la raison essentielle de cette charte, puisque pourquoi autant de déchets qui ne sont pas réemployés ? C'est que nous étions les uns les autres dans des cycles linéaires. Mmh. J'extrais, j'exploite et après je jette. Or, c'est fini pour différentes raisons, et donc c'est j'extrais, pourquoi pas, j'exploite, c'est pas interdit, et lorsque l'exploitation arrive à son terme, est-ce que je jette ou est-ce que je regarde ce que je peux à nouveau en faire, soit en réutilisation directe ou en réutilisation indirecte, selon la nature du matériau ou des matériaux. Cette conviction, Patrick Ollier l'avait très fort, en disant il faut qu'on change de modèle économique et de regard sur l'usage des biens que la planète et la Terre nous donnent et comment, à partir des prescripteurs que sont certes la métropole, mais également les 130 communes et les 10 territoires qui, à eux seuls agrégés en termes de budget, d'investissement et de décision économique, pèsent plusieurs milliards par an, pouvoir être vertueux. Et donc, on travaille et sur, je dirais, la demande, c'est-à-dire les prescripteurs qui se familiarisent avec ce nouveau cycle de la matière et donc le réemploi avec tout ce que cela demande comme technicité, comme place, comme investissement, comme astuce. Quand vous allez au CSTB sur les recherches, comment on arrive à dissocier telle molécule de telle autre et de réutiliser et de remettre, c'est passionnant. Et puis également, une fois qu'on a prescrit un souhait dans ce sens-là, si on ne trouve personne en face pour réaliser les matériaux nécessaires ou les services nécessaires, voilà, ça reste des vœux pieux. Et donc, c'est également un soutien aux filières émergentes du réemploi de ces matériaux de bâtiment, puisque les chiffres que vous avez donnés, c'est effectivement, en termes de bilan carbone et de poids de déchets, le bâtiment arrive premier largement devant tout le monde. Voilà, donc là, il y a un gisement extrêmement important à travailler, et c'est ce que fait la métropole. Alors, est-ce qu'on le fait tout seul ? Non, parce que la chaîne de valeur sur l'opération de construction est quand même très complexe et très spécialisée en fonction, ça part du notaire, à la limite. Même eux, il faut qu'ils sachent inclure un certain nombre de concepts dans leurs actes dès le départ. Et puis ensuite, il y a les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises de premières œuvres, de secondes œuvres, les architectes, les bureaux d'études, etc. Donc il faut que toute cette communauté se connaisse, ils se connaissent, mais autour de ces problématiques-là, puisse porter le même regard. Il y a les spécificités propres à chacun, mais il y a des objectifs généraux propres à tout le monde. Et donc cette charte est bâtie sur des engagements généraux, communs à tout le monde, des objectifs sectoriels, métier par métier, en fonction des contraintes et des réalités de chacun, mais toujours dans une unité. Et c'est aussi un lieu, puisqu'il y a aussi le club, club de la construction circulaire, où tous ces acteurs-là se retrouvent et échangent leurs expériences, nourrissent de nouveaux projets et viennent alimenter cette charte qui a 4 ans effectivement, mais qui mériterait au regard de l'avancée des travaux et des habitudes qui commencent à se créer et des acteurs émergents qui sont de plus en plus nombreux, qu'on puisse la réenrichir et la remettre, je dirais, davantage dans le détail, puisque là maintenant on arrive, par exemple, je prends un exemple concret, les terres d'excavation. Jusqu'à maintenant, on allait faire des petites montagnes dans la Seine-et-Marne.
Oui.
C'était joli comme tout. Bah, aujourd'hui, ces petites terres d'excavation, plus, je dirais, la production des composts par le traitement de nos ordures ménagères de ville, et qui, en centaines de milliers de tonnes, on marie les deux et on refait des terres arables dans nos villes pour nos espaces verts, et ça évite d'aller décaper les champs, pareil en Seine-et-Marne.
Bon. Je trouve ça génial.
Et donc maintenant,
c'est génial.
Voilà, c'est suffisamment mûr, ouais, crédible pour que le passage à l'échelle, cher à mon ami Jacques Alain, puisse se faire. Voilà, et donc c'est le but de cette charte, c'est de donner ces objectifs communs, ces objectifs particuliers, et surtout ces échanges, et comment progressivement tous les maillons de la chaîne évoluent, parce que...
Alors justement, vous passez à l'échelle, Jacques-Alain Bénisti, je sais que ça vous touche particulièrement, que ça vous tient à cœur, est-ce qu'on y est, il y a encore un gap de progression important? Et je voudrais qu'on mette ça en perspective également, parce que Xavier Lemoine parle de la construction, on est quand même dans un état, on va dire, proche de la Bérézina, autour de la construction, avec aujourd'hui un marché qui est un marché complètement atone. N'y a-t-il pas là aussi, dans ce que vous faites, des leviers de croissance, de vitalité, de proximité territoriale dans l'économie circulaire, mais également dans les réemplois? C'est un peu ce que vous faites avec ce mariage finalement astucieux entre les déchets organiques, compost organique et les terres d'excavation. Et est-ce que, voilà, si on devait prendre cette photo, aujourd'hui, on dirait quoi, Jacques-Alain?
Je dirais qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, on est confronté en fait à une crise quand même de l'immobilier qui perdure aujourd'hui, qui tend un petit peu, effectivement, on tend un petit peu aujourd'hui à s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on est autour des équilibres financiers, des équilibres économiques avec l'ensemble des opérateurs. Quand on a commencé à parler en 2016, lorsqu'on a lancé Inventons la métropole, 127 projets, les opérateurs ont eu un petit peu peur, puisque dans la charte qu'on leur faisait déjà signer au départ et dans le cahier des charges qu'ils avaient donc à respecter, il y avait justement déjà cette notion d'économie circulaire et de réemploi, je dirais, de tous les matériaux. Donc on était à la base, je dirais, de cette volonté et d'essayer d'inculquer à chaque maire, en fin de compte, cet ADN. On avait essayé cette manière, en fait, de diriger nos chantiers pour éviter, évidemment, la catastrophe. On l'a fait avec cette volonté politique, mais on en était, évidemment, à mettre dans ce cahier des charges quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à cela...
Vous voulez dire que la contrainte a été un moteur, finalement, quelque part.
Oui, et bien sûr, ça a été un moteur. Et puis, mais il y a certains, je ne citerai pas de nom, évidemment, qui ont commencé à me dire, mais attendez, vous voulez nous imposer des choses, etc. Vous demandez, en fait, d'être avec vous dans ce grand projet, effectivement, de métamorphose de la métropole, les friches, les transformer, effectivement, en logement, les anciens bâtiments, de les réutiliser, etc. C'est un magnifique.
Voilà.
Mais vous commencez
les bureaux en logement, la grande doxa actuelle.
Bien sûr, mais vous commencez déjà par nous mettre des embûches.
Mais oui.
Qui vont, en fin de compte, déséquilibrer financièrement, etc. Ça, c'était avant la crise. Maintenant, on est en pleine crise, on essaye actuellement d'en sortir, et effectivement, et on leur dit, mais tout ce qu'on vous a raconté en 2016, il faut maintenant le mettre en application. On avait les mots, on avait les obligations, etc. Maintenant, on a la concrétisation. C'est-à-dire qu'on passe donc à une ère d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut maintenant passer directement à l'action. Et c'est vrai que c'est difficile, mais on a réussi, avec justement ceux qui ont signé la charte depuis plusieurs années, en disant on n'est pas tout seul.
Mais oui.
La métropole, maintenant, c'est du collectif. Mais on s'engage. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que chacun s'engage.
Est-ce que ça sert de totem, d'exemple, la réplicabilité de ce que vous avez initié pour l'Île-de-France dans d'autres territoires?
Oui.
Parce que vous avez été très en avance sur beaucoup de sujets.
Oui.
Est-ce que vos collègues maires aujourd'hui s'inspirent de vos travaux?
Alors,
on a initié il y a quelques années, en tout cas au niveau de l'économie circulaire, mais je pense que tous mes collègues à leur niveau l'ont fait également, des collaborations, des coopérations ou des échanges avec les métropoles, non seulement de France, mais on travaillait avec Montréal, on travaillait également avec Bruxelles, dans le cadre d'une chaire à l'Université de Marne-la-Vallée, qui, justement, sur les questions d'économie circulaire, a apporté un regard universitaire pour aller qualifier, quantifier des choses qui, pour nous, nous dépassent un peu, mais qui sont des incontournables.
Et ça permet de voir ce qui se passe ailleurs.
Absolument. Aussi. Et donc, on a initié à cette échelle-là des échanges. Et en ce moment, au CIPCA, se tient une réunion où les autres métropoles françaises ont été invitées autour de l'économie circulaire pour échanger sur les pratiques. Et peut-être tout à l'heure, j'aurai à parler d'un outil qui s'appelle BTP Match, qui est la recension de tous les matériaux déconstruits disponibles à un temps T, stockés à des endroits X.
Qui peuvent être réemployés.
Et qui peuvent être réemployés pour peu qu'on se fasse connaître. Et
c'est un peu une bourse d'échange, entre guillemets.
Une bourse d'échange. Ça a été initié par la ville de Paris et Pleine Commune. Ça a été repris par la métropole pour le mettre à l'échelle de la métropole. Mais l'outil est suffisamment performant.
On peut y aller, il y a une application.
BTP Match, oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est...
BTP Match. Oui. Voilà, on va demander à nos techniciens justement de mettre les liens.
Et d'autres métropoles s'y intéressent également parce que voilà, il est plutôt bien foutu.
Et la charte, on parle vraiment, et vous avez insisté là-dessus, et il faut revenir là-dessus, d'une action véritablement collective. C'est ça qui est hyper important, avec de nouvelles activités, peut-être de nouveaux emplois aussi. Est-ce qu'on peut commencer à dire qu'on voit émerger quelque part une sorte de filière métropolitaine de la construction circulaire? Est-ce qu'on peut dire ça?
Je serais tenté de le dire, puisque les prescripteurs... prenons un bâtiment, je le démolis. Dans mon cahier des charges de mon marché de démolition, je vais dire, non, vous ne me le détruisez pas, vous me le déconstruisez. Et vous récupérez tous les matériaux et avec un pourcentage, etc. OK, parfait. Et donc, il faut trouver des entreprises qui sachent le faire. Donc, il faut former des personnels qui n'étaient pas forcément auparavant formés à ça. Ensuite, c'est bien les matériaux, vous avez fait de quoi? Vous les mettez sur le trottoir en attendant que quelqu'un vous dise « Ah, ça m'intéresse, je vais les prendre ». Donc, il faut des plateformes. Ces plateformes-là, c'est du foncier. Foncier en région Île-de-France, difficile à trouver. Aide de la métropole, aide financière, aide par l'intermédiaire des territoires et des communes pour identifier ces fonciers. Il y a toute une cartographie qui a été faite sur du foncier définitif ou transitoire, mais qui peut aider à amorcer des processus. Et donc, déjà, là, il y a 4-5 plateformes qui sont en train d'être créées. Il n'y en avait quasiment aucune il y a quelques années seulement, aidé par la métropole pour initier le mouvement. Derrière, l'outil BTP Match pour savoir à tout moment qu'est-ce qui est disponible, où, à quelle quantité, quelle qualité, avec derrière tous les référencements assurantiels nécessaires, d'où le CSTB, etc., pour faire tous les tests YZ, parce qu'après, celui qui construit, il dit, attendez, oui, mais moi, ma responsabilité est
la certification
parce que vous me demandez de récupérer. Donc, donc, on a travaillé sur le label qualité, on a travaillé sur et également avec le législateur pour faire évoluer un certain nombre de textes. Et après, eh bien, vous réemployez et vous avez commencé un début de filière et vous avez initié de nouveaux métiers de la déconstruction, de nouveaux métiers de la préparation, du stockage, de la préparation de la préparation au réemploi. Et vous avez rassuré tous les acteurs de la filière parce que c'est quand même très réglementé. Et puis, quand il y a un pépin, on va toujours chercher celui qui a donné l'ordre. Bon, et quand vous passez par les marchés publics, il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc là aussi, il y a tout un travail qui a 10 ans d'âge déjà, où on habitue les collectivités et les entreprises, les collectivités à closer comme il faut pour être protégées, mais obtenir ce qu'ils veulent et aider les entreprises à répondre à ces marchés en sachant qu'ils engagent une part de leur responsabilité, mais à bon escient, parce qu'ils sont aidés. Et ça, c'est un groupe de travail.
Et ça fonctionne, et je vais vous citer un cas. Donc, comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est le 37-39 rue d'Arreau, dans le 14e. Une transformation de Subtelecom en appartement, en logement, donc un bâtiment tertiaire déconstruit, donc déconstruire plutôt que de démolir, je reprends votre terminologie, récupération d'une bonne partie des matériaux, par exemple tout ce qui est matériaux sanitaires, certains types de matériaux, exactement dans la trajectoire. C'est-à-dire que c'est presque totémique. Vous voyez, c'est iconique. Et vous savez, pour équilibrer l'opération, parce que le problème, on peut en parler, c'est les problèmes de sortie d'opération qui coûtent plus cher. Effectivement, déconstruire, récupérer, ça a une vraie vertu, mais sur la rénovation ou la transformation des bâtiments, logements, bureaux ou de friches ou autres, c'est le prix de sortie. Ils ont surélevé de deux niveaux. Et c'est vrai que la loi Elan, comme la loi Daubier, permet aujourd'hui de créer un cadre favorable. Alors justement, je voulais vous poser la question, Jacques-Alain Benesti, je voudrais qu'on entre un peu plus, si vous voulez bien, en politique pratique. Aujourd'hui, on est sur une situation qui est, on peut dire, schizophrénante. On peut le dire comme ça. On voit refleurir des bidonvilles un peu partout en France. Vous le savez, ça. C'est un vrai phénomène. On a doublé le nombre de SDF. On a 2 700 000 foyers qui sont en attente d'un logement social depuis, sur des listes qui depuis plus de 10 ans. On a 4,5 millions de personnes relativement mal logées. C'est-à-dire que c'est une régression absolue. Les autorisations d'urbanisme, messieurs, mais ça, vous le savez déjà par rapport à ce qui a été agréé sur le logement social, comme la production de logements neufs, a les mêmes chiffres à périmètre constant qu'en 1960. La seule différence, c'est qu'il y a 17 millions d'habitants supplémentaires. Quand on est maire, et ça, je voudrais vraiment, vraiment vous l'entendre dire, c'est que les maires sont pris dans un étau avec ces injonctions contradictoires entre une population qui vous met une pression absolue, parce que vous les recevez en permanence pour des demandes de logement, parfois des situations, et vous en avez connu, Xavier, aussi, de votre côté, des situations désespérantes humainement. On ne peut pas rester insensible à cela. C'est extrêmement compliqué. Comment on fait le lien, et c'est ça le sens que j'aimerais vous exprimer, comment on fait le lien entre l'action politique locale, ce regard physique de la République que vous représentez pour les gens, et cet impératif d'aller vers une ville saine, respirable, où on vit en bonne santé. Et on le voit de plus en plus avec le climat. Jacques-Alain Benesti. Alors, c'est plutôt une réflexion qu'une question, bien évidemment.
Moi, j'ai l'expérience de 31 années de maire, où j'ai vécu, évidemment, toutes ces péripéties, effectivement, où la problématique du logement, de trouver les terrains disponibles, etc. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait une friche de 11 hectares d'anciennes décharges. Pendant 35 ans, toutes les entreprises du secteur sont venues y mettre l'amiante, matériaux amiantés, les hydrocarbures, les produits chimiques, etc. Malaxés. Quand on a envisagé le projet, alors que j'ai eu la chance d'être rapporteur du projet donc du Grand Paris, j'ai évidemment mis une gare, puisque lorsque le président de la République m'a dit « voilà, je te confie un des plus grands projets aujourd'hui de ces 50 dernières années », je lui ai dit « d'accord, ton projet est magnifique, est extraordinaire, relier les banlieues entre elles, effectivement, c'est ce qui nous manque ». Aujourd'hui, puisqu'on a des véhicules. Aujourd'hui, on dit qu'il y a trop de véhicules.
On parle du président actuel ou...
D'accord. On parle d'un
grand président.
D'un grand président, c'est ça, qui n'est pas très grand. On a pris à bras-le-corps, véritablement, ce sujet. Moi, j'ai dit, il me faut une gare chez moi. On ne m'a pas mis de gare, etc. Je veux bien me battre sur le projet à l'Assemblée. Ça n'a pas été ça. Moi, je suis un guerrier. Donc, effectivement, le guerrier, il veut bien se battre, il se battra. Mais dès l'instant où j'ai une gare. Oui. Donc, moi, j'ai mis une gare, mais personne ne s'est demandé où j'avais mis la gare. La gare, je l'avais mise simplement au plein milieu d'une décharge publique qui, pendant 35 ans... Alors, quand je suis arrivé maire...
Extraordinaire.
J'ai arrêté cette décharge. Avec l'aval, évidemment, à l'époque de la DDE, donc de l'État.
Oui.
Favorisé, déjà. Et j'ai dit, voilà, il faut estimer à peu près la dépollution, puisqu'il va falloir dépolluer. Bah, on m'a dit entre 7 et 8 millions. À la fin du compte, on était à 71 millions.
Ah oui, donc 10 fois plus, quoi.
Voilà. Mais c'est considérable.
71 millions de dépollution.
Et comment vous l'avez financé?
La question, c'est comment on l'a financé? Alors, évidemment, comme il y avait la gare, la Société du Grand Paris, on l'a fait financer la moitié.
Bah oui.
Alors, la Société du Grand Paris a dit, bah oui, mais enfin, bon, on n'est pas totalement... J'ai dit, ça va, il y a moitié-moitié, etc. Moi, je me débrouillerai pour le reste. Donc, on a fait financer donc, la Société du Grand Paris la moitié, donc quand même, qui était près de 37 millions d'euros. Et ensuite, évidemment, l'aménageur public, les équipes financières, l'État, avec le Front Friche, qui est venu à bon escient, évidemment, mieux, et qui a financé, évidemment, tout ça. Mais sans cela, sans ces financements, sans d'avoir trouvé évidemment ces financements, ça serait resté une décharge publique. Après, dès 2016, j'ai introduit immédiatement une charte justement de possibilité de réutiliser les matériaux. Alors évidemment, c'est très difficile de réutiliser des matériaux tels que l'amiante, tels que l'hydrocarbure, etc. Ouais. Donc on m'a dit non, c'est pas possible. En plus, tout est mélangé. Donc on ne peut pas extraire, etc. On a créé ce qu'on appelle une ITE qui a pris tous ces matériaux qui ont quand même été séparés et on les a pris en train par la petite ceinture, c'est-à-dire sans pollution avec les différents camions, évidemment, qui déferlaient sur le centre-ville, etc. Donc on a réglé ce problème, etc. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit il faut absolument instituer une charte, véritablement, concernant ces matériaux, ces bâtiments qu'on détruit, etc. Par exemple, moi, je construis sur les grands axes. Je protège mes quartiers pavillonnaires, donc je respecte la loi des 180 logements que j'ai par la loi SRU. Mais par contre, je le fais sur les grands axes, donc je détruis des pavillons. Dans les pavillons que je détruis, il y a de la meulière. La roche, la meulière, est devenue une denrée extrêmement... C'est de l'or,
absolument,
aujourd'hui. Donc, je dis à l'opérateur, il signe une charte avant que je signe le permis de construire, parce que on oublie toujours de dire, heureusement aujourd'hui, il nous reste. Heureusement,
oui.
Il nous reste cette arme.
Oui, c'est vrai que la tentation.
De signature du permis de construire, quand vous dites à un opérateur, si vous ne signez pas la charte,
c'est important de le dire.
Je suis désolé, si la charte n'est pas respectée, sur le chantier, sur la récupération des matériaux, etc., je ne signe pas
les permis
de construire.
Très bien. Très bien.
L'opérateur, il va être contraint,
évidemment,
de le faire.
Absolument.
C'est ça. Quand je dis tout à l'heure dans mon discours...
Mais finalement, ce n'est même pas une contrainte, c'est un investissement pour l'opérateur.
Il faut une volonté politique. Oui. Nous, à la métropole, avec l'expérience que j'ai, moi, en tant que maire de 31 ans de maire, il a presque autant, Xavier, que moi, on a cette expérience. Donc, on peut inciter les... Vous savez, il y a plein de nouveaux maires aujourd'hui. Parce qu'on est, dans les dernières élections, on était dans le dégagisme.
Oui.
Bah, lui, il a tant d'années, donc on le détruit.
Oui.
Ça a été un petit peu... certains partis politiques, c'était ça.
Donc, oui, on peut le dire.
Il est là depuis trop longtemps, donc on le dégage, etc. Oui. Sans rien derrière.
Oui.
Sans projet, etc. On ne dit pas, tiens, il a fait l'effort, effectivement, une ancienne décharge, il a... On s'en fout.
Il a fait son temps, en gros.
Il a fait son temps, donc on le dégage, etc.
Avec des idées, mais des idées sans contenu.
Voilà. Nous, ce que l'on veut, et le président Ollier nous donne cette possibilité avec des financements également, mais on ne peut pas être tout seul. Je dis toujours président, on fait ça, c'est très bien, etc., mais on peut pas être tout seul. Donc là, dans cette action qu'on a fait de signature, et vous avez remarqué, quand on a fait signer la charte, on l'a fait signer, mais on fait écrire le nom. C'est-à-dire qu'il s'engage doublement, celui qui signe. Donc voilà. Et quand il signe, c'est un petit peu le système des PPA, des projets partenariales. Comme j'ai dit, on a l'État qui est là, qui signe avec nous, les territoires qui signent avec nous, la région qui signe avec nous, les financiers qui signent avec nous.
Jacques-Alain Benisti, Xavier Lemoine, le général de Gaulle disait, là où il y a une volonté politique, il y a un chemin.
J'insiste tout le monde à aller voir ce film extraordinaire.
Oui, absolument, avec Benoît Magimel et toute l'équipe.
Surtout le numéro 2, ne ratez surtout pas ce film.
Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est important ce que vous disiez, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans cette dictature de l'immédiateté, des idées manipulées sans aucun contenu. Bref, l'immensité du vide, liée d'ailleurs à l'inculture crasse d'une partie de la classe politique, et notamment certains élus du Parlement, députés, et on reconnaîtra de qui je veux parler. C'est là que vous êtes importants tous les deux, dans cette volonté politique. Xavier Lemoine, on le sait, vous avez transfiguré votre ville. Il faut voir, Montfermeil à l'époque, on en avait beaucoup parlé, ça fait quelques années que je vous reçois, Xavier. C'est là qu'on sent, vous êtes d'accord, que la volonté que vous avez eue, Elle est pérenne, et elle est pérenne dans le temps et dans le temps du mandat, même si le mandat d'un maire, parfois, n'est pas en équation directe avec la fabrique de la ville, où il initie des projets, peut-être qu'il ne verra pas arriver à son terme. Je voudrais juste dire, vis-à-vis du discours politique ambiant, où on vous a méprisé, je le dis le mot, je suis éditorialiste, donc je peux me le permettre, méprisé, même une fois entendu Emmanuel Macron, président de la République, dire que vous étiez des amateurs. Vous vous rappelez de cette séquence dramatique. Alors c'est intéressant parce que quand il y a eu le confinement, ben on a redécouvert les vertus des maires, là, justement. Voilà. J'aimerais que vous vous exprimiez également sur le rôle déterminant que vous avez encore et des défis majeurs que l'on doit défendre pour la République, des toutes les communes qui existent aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter un chiffre pour qu'on soit clair avec tout le monde. Il y a 500 000 locaux qui travaillent gratuitement tous les jours. Quasiment. Et avec eux, ça fait tourner la machine républicaine. Et voilà, je voudrais juste qu'on le réaffirme, Xavier Lemoine.
Pour répondre à votre question, alors là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, mais. Parce que effectivement, les choses qui ont pu être faites en faveur des populations de Montfermeil, de Clichy-sous-Bois, etc., oui, c'était une époque où il y avait encore une volonté, mais qui était collective et partagée.
Oui, oui, oui. Mais vous avez réussi. Deux,
on a réussi. Il y avait des moyens financiers, oui. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Et il y avait encore des bailleurs
qui jouaient le jeu,
qui disposaient de moyens financiers avant qu'ils leur soient rabotés et qui avaient des marges de manœuvre pour aller faire ce qui nécessitait d'être fait et souvent bien davantage qu'ailleurs. Or, aujourd'hui, et je le vois bien en ayant fini cette transformation, que pour tenir en état les investissements avec des bailleurs qui sont impécunieux, qui ont fait de mauvais choix de gestion en termes de maintenance quotidienne de leur patrimoine, ça c'est sûr. Que la volonté s'épuise et fatigue. Bon. Deuxième réflexion, et moi, on ne peut pas raisonner logement si on ne raisonne pas aménagement du territoire. Absolument. Je pense que la grosse bêtise, ça a été l'abandon de la DATAR, de l'aménagement du territoire. Et moi, je ne suis pas un fervent adepte de ce qu'on appelle la métropolisation, qu'il y ait une métropole urbaine parisienne qui existe, oui, qu'elle nécessite une gouvernance adéquate, on en fait partie. Mais cette injonction de construire plus vient des fois casser des villes dont la géographie, dont l'histoire, dont la sociologie ne méritent pas les mauvais traitements qu'une course acharnée au nombre de logements provoque. Et ensuite, on est obligé d'inventer l'Agence nationale du renouvellement urbain pour corriger. Ça coûte un pognon de dingue, on ne l'a plus, et ça fait des dégâts sociaux que l'on paye très cher et qui durent très, très longtemps. Donc, cette réflexion sur les villes moyennes, sur la question du désert français, etc. On parlait tout à l'heure de Jean-Christophe Fromentin. Il a eu dernièrement des ouvrages et des réflexions, et même sa thèse de doctorat
qu'il a soutenue, qui
est tout à fait passionnante et intéressante. Oui, et un dernier livre, il raconte quand il est allé faire tout le tour de France en vélo. Bon, remarquable. Après, dans nos villes, oui, heureusement qu'on a encore le permis de construire. C'est la seule chose à peu près qui nous reste. C'est la seule chose qui nous reste. Construire plus, non. Construire mieux, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on offre aux familles? Des appartements compacts. Et s'il y a un enfant supplémentaire qui arrive, c'est un drame parce que tout d'un coup, l'appartement devient invivable.
Mais Xavier Lemoine, qu'est-ce qui va se passer en 2027?
La foire. Et encore, je suis gentil. Je crains la guerre civile pour 2027. Voilà, je vous le dis franc, comme je le pense.
Vous savez qu'on est nombreux à partager ce...
Beaucoup de mes collègues, hélas, droite-gauche confondue, voient les choses se mettre en place avec effroi. Bon, donc je dirais, ça c'est un autre sujet et il nous dépasse. Et donc, effectivement, le maire doit avoir... Moi, je vois tous mes permis de construire. Je regarde tout. Et j'ai le PLUi qui s'impose, et puis j'ai le PLU Lemoine. C'est un deuxième PLU qui est donné à tous les promoteurs en leur disant « Oui, mais ce n'est pas plus de 7 logements par palier. » C'est etc. Toute une gamme de prescriptions, parce qu'on sait que ces prescriptions respectées font le confort de la vie quotidienne, font le respect des personnes pour le bien qui leur est confié, que ce soit du logement social ou de l'accession à la propriété. Mais souvent, il y a des investisseurs qui louent. Et donc, pareil, il faut faire attention au comportement des gens qui n'est pas le même si vous êtes propriétaire avec une vision patrimoniale ou locataire avec une valeur d'usage uniquement. Je vais sur les chantiers, je me fais présenter les matériaux, etc.
Parce du que circulaire.
Je crois, si on peut aussi, mais je crois à la vertu du beau, je crois énormément. Et quels sont les choix architecturaux que l'on a fait? Enfin, il devrait y avoir, pardonnez-moi, mais je l'ai déjà dit publiquement, il devrait y avoir un Nuremberg de l'architecture. Voilà, je suis assez sévère.
Mais, raison.
Mais oui, non, mais... On...
Xavier, on se connaît bien, j'aime beaucoup votre façon de parler, parce que moi je disais qu'il y avait cet urbanisme triomphant des années 70 qui était criminogène par nature. Bon bah, on devrait aujourd'hui... Non mais franchement...
Et après,
on hérite de situations de ghettoisation et d'encerclement. Roland Castro, à son âme, avait d'ailleurs parlé qui était un grand architecte, qui avait parlé justement de l'enclavement des banlieues, etc. Il y a des banlieues. Mais moi, je suis né dans une banlieue dans laquelle
avec Roland,
on entrait, on n'en sortait pas. Moi, je suis né au Minguette, à Lyon. Imaginez, on a rasé la cité. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que il y a un rapport, si vous voulez, à la dimension presque philosophique et pratique de la politique qui manque cruellement dans le débat. Alors, malheureusement, j'aimerais bien qu'on passe un peu plus de temps, mais je vous vois, cher Jean-Baptiste.
Je suis le maître des horloges, et là, évidemment, j'ai le mauvais rôle.
Donc, ça va nous obliger à recevoir Jacques Alain et Xavier Lemoine pendant une heure en studio à Paris.
Mais complètement. Vous serez évidemment bienvenus, messieurs. Je rappelle que cette charte que vous avez signée il y a 4 ans, vous avez trouvé 8 nouveaux signataires, et d'ailleurs, on les mentionnera également.
Absolument.
Très bien.
C'est important.
Voilà, quand ce sera disponible également sur l'ensemble des plateformes. Merci en tout cas. Oui,
il y avait le name and shame, là c'est name and pride.
Voilà.
On est fiers de donner leur nom signataire de cette convention.
Allez, j'appuie sur le bouton, de monsieur. Merci beaucoup,
merci à vous
d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve dans quelques instants, toujours ici depuis le CIPCA. Tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.